ou de velours, à un tisserand de Montpellier qui leur faisait un bon prix. L'or, ils le lissaient dans leur atelier, l'amenaient au moulin du Mons, sur les rives de l'Orbe, pour l'y faire fouler. Puis, pouvaient enfin procéder à la teinture, étape cruciale de la confection des draps, et qui faisait la différence entre les nombreux vendeurs de la ville comme des foires locales. Pour ce faire, ils utilisaient des plantes telles la garance, le pastel de Carcassonne ou la gaude, lesquelles, selon la façon dont ils les mélangeaient, pouvaient donner une large gamme de couleurs et laisser dans tout le bâtiment une odeur caractéristique qui, longtemps, resterait gravée dans la mémoire de notre jeune héroïne. « Je suis allé me promener, » répondit Alice en lissant ses longs cheveux mouillés. Sa mère lui administra aussitôt une claque sonore. « Je sais très bien où tu étais, petite insolente. » La jeune fille porta une main à sa joue en feu et lutta pour ne laisser paraître aucune larme. « Tu es encore allé voir ce vieux juif à l'extérieur de la ville. Je ne comprends pas ce qui te passe par la tête. Non seulement tu manques à ton devoir en fuguant plutôt que de nous aider à l'atelier, mais en plus tu traînes avec ce voleur, ce hors-la-loi, ce vieillard de malheur. Si les gens de Béziers savaient que notre fille sympathise avec un juif, tu imagines un peu le dommage que cela causerait à notre commerce? Ce n'est pas un voleur, » protesta Alice. Catherine Nouet secoua la tête d'un air blasé. « Ah oui ? Et comment crois-tu qu'il peut survivre, lui qui ne travaille pas ? L'argent ne tombe pas du ciel, là, Alice, même chez les Juifs. C'est un voleur. Et toi, tu es une imbécile. C'est la dernière fois, ma fille, la dernière fois. Si je te reprends encore une seule fois à quitter la maison en cachette pour aller le voir, je t'enferme pendant une semaine dans le chai. Maintenant, file à l'atelier pour aider ton père. » La jeune Occitane fit volte-face et s'achemina d'un pas preste vers la grande pièce où l'on travaillait les tissus à l'arrière de la boutique. Les hommes levèrent un œil vers elle sans interrompre leur office. Son père lui adressa au passage un regard courroucé, et sans demander son reste, elle alla s'installer dans le coin de l'atelier où étaient stockées les matières premières. Depuis qu'elle était en âge de travailler, Alice avait en charge le feutrage de la laine tissée, parce que c'était l'étape qui demandait le moins de savoir-faire, selon son père, et qui, surtout, n'était pas digne des ouvriers qu'il payait plutôt pour la teinture. Il s'agissait d'abord de plonger le drap brut dans des bains successifs pour enchevêtrer les brins. Ensuite, on purgeait le tissu de ses impuretés, et on le dégraissait en l'immergeant dans l'urine qu'Alice, chaque matin, devait aller collecter dans le pot disposé près de la fosse d'aisance du jardin. Il convenait alors de rincer la laine, puis de lui enlever ses nœuds, un par un, ce qui était long et fastidieux, et permettait de la préparer pour le foulage. Ainsi, Alice passa toute la journée, comme à l'accoutumée, à exécuter consciencieusement sa tâche tout en souhaitant une autre vie, cette autre route dont avait parlé Zacharias, et qui en ce jour plus que jamais lui sembla tout à la fois des plus désirables et des plus inaccessibles. Quand la nuit fut tombée, fort tôt en cette saison, alors qu'Alice continuait, malgré la douleur aiguë qui avait gagné le bout de ses doigts, à ôter toutes les peluches des grands draps de laine, sa mère entra dans l'atelier. « Alice, il fait trop sombre pour travailler maintenant. Tu peux arrêter. Il y a François devant la boutique qui demande à te voir. Je n'ai pas envie de sortir. » La drapière poussa un soupir agacé. « Ne sois pas idiote. Je préfère grandement devoir discuter avec un garçon de ton âge plutôt que de traîner avec le vieux juif. François est le fils du prévôt. C'est un honneur pour notre famille qu'il ait envie de te fréquenter. Alors ne discute pas et sors tout de suite parler avec ce garçon. » Alice ferma les yeux, la mâchoire serrée. « Obéis à ta mère !» lança Morin Nouet d'une voix cinglante de l'autre côté de l'atelier. « Et estime-toi heureuse d'avoir encore le droit de sortir !» La jeune fille s'essuya les mains sur un chiffon et quitta la pièce en traînant des pieds. Chapitre 12. Plutôt que de retourner aussitôt à son apothicairerie comme il eût pourtant dû le faire, Andreas avait éprouvé le besoin de flâner en ville, un luxe qu'il ne s'accordait que rarement, surtout en hiver, mais que sa perplexité du jour lui avait inspiré. Pendant le serment de Jehan, l'apothicaire n'était pas parvenu à penser à autre chose qu'à cette mystérieuse pièce vide et oubliée, qui avait comme envahi sa maison, sa vie même, et toute la journée encore, foulant le pavé parisien, il était resté la victime impuissante de cette inexplicable obsession. En suivant au hasard les grandes voies de Paris, il avait espéré trouver une interprétation.